Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Roquigny, Clémence Alezard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Gargasson et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Meige. Et cette semaine, nous allons nous mettre en route à hauteur de pied pour observer et tenter de comprendre l'ordre mouvementé de notre monde. Migration, nomadisme, contestation sociale, nous consacrons notre série à la marche. Nous verrons comment, dans le contexte actuel, la mondialisation a produit de fortes inégalités en matière de mobilité. Puis nous irons voir du côté des pèlerinages, ces marches ou voyages spirituels qui peuvent aussi être de véritables aubaines économiques pour les territoires qui en sont la destination. Mais aujourd'hui, on se penche sur la marche comme mode d'action politique, allégorie, mise en scène de la colère du peuple contre le pouvoir, de la Women's March, à nuit debout, la lutte à pied.
Vous appelez femmes que vous n'aimez pas grosses cochonnes, chiennes, bonnes à rien et animaux dégoûtants. Est-ce que selon vous, c'est digne d'un homme qui devrait être élu président ?
Je dis ce que j'ai à dire, et honnêtement, Megan, si vous n'aimez pas ça, je suis désolé. J'ai été très gentil avec vous, mais vous ne m'avez pas bien traité ce soir.
C'est un homme puissant qui parle librement, ouvertement, de comportements de prédateurs sexuels, en utilisant un langage tellement obscène que beaucoup d'entre nous, nous nous inquiétons que nos enfants l'entendent à la télévision. Ces commentaires honteux à propos de nos corps, le manque de respect de nos ambitions et de notre intelligence, et la croyance que l'on peut faire ce qu'on veut à une femme, c'est cruel, c'est terrifiant.
C'est un raciste, un sexiste, un néo-nazi, et il ne mérite pas de diriger notre pays.
À la suite de l'élection de Donald Trump, plusieurs femmes ont proposé d'organiser le 21 janvier prochain, le lendemain de son entrée en fonction à Washington, une marche des femmes pour dénoncer les paroles sexistes et misogynes prononcées par le futur président américain. Un événement qui pourrait rencontrer un certain succès, puisque sur les réseaux sociaux, ce sont déjà près de 400 000 personnes qui ont manifesté leur intérêt et qui envisagent d'y participer. Des centaines de bus ont même été réservés pour rassembler les volontaires venus des quatre coins du pays. Alors que nous dit cette initiative du combat féministe aux États-Unis et pourquoi choisir de l'exprimer à travers cet acte hautement politique, la marche? Par quel processus historique la marche collective est-elle devenue aux États-Unis un moyen, semble-t-il, incontournable d'exister face au pouvoir? Après le mouvement du Black Lives Matter, la vie des Noirs compte aussi. Observe-t-on un retour de la rue? Et plus généralement, l'emploi de la marche signifie-t-elle le refus des voies ordinaires de l'action électorale ou partisane? L'occasion pour nous de faire un état des lieux des grandes luttes sociales, alors que Barack Obama s'apprête désormais à se retirer après deux mandats et qu'un nouveau président prendra ses fonctions à la fin de la semaine. Nous évoquerons également le cas de la France, deux ans après la grande manifestation du 11 janvier 2015, suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, une occasion de revenir sur ce moment, mais peut-être également sur ces différentes manifestations qui ont jalonné le mandat d'un François Hollande, lui aussi sur le départ. Manif pour tous, manifestation du 10 et 11 janvier, mais aussi Nuit debout, une manifestation dans laquelle précisément il ne s'agissait pas de marcher, mais d'occuper un lieu public. Alors pourquoi avoir décidé cette fois de ne pas marcher? Quelles limites ce moment révèle-t-il de la marche comme démonstration politique collective? Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités. D'abord, Daniel Tartakovsky, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, une spécialiste des mouvements sociaux en France et en Europe. Mais ça sera intéressant d'avoir aussi votre regard sur les États-Unis, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Sylvie Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, américaniste, enseignante à Sciences Po, chercheuse associée à Harvard et Stanford. On va commencer sur les États-Unis, justement, et peut-être avec vous, Sylvie Laurent. Durant cette campagne américaine, on l'a entendu, ce candidat Trump a beaucoup heurté à travers ses comportements sexistes, misogynes, des comportements qui étaient révélés par les médias parfois, mais aussi totalement assumés, totalement revendiqués par l'homme d'affaires. Dès le lendemain de son investiture, on a donc une grande marche qui est programmée dans un esprit démocratique et en l'honneur des défenseurs des droits de l'homme, de la dignité et de la justice qui nous ont précédés. Nous nous unissons autour de nos diversités pour montrer que notre présence est trop importante pour être ignorée. Voilà ce qu'on lit sur le communiqué. convoquée. Les hommes sont évidemment conviés, a précisé Bob Blunt, qui est l'une des organisatrices. Nous voulons que la marche soit aussi inclusive que possible, tout en acceptant qu'elle soit centrée sur les femmes. Cette initiative, Sylvie Laurent, elle marque le fait que ces femmes ont parfaitement pris conscience que s'ouvre avec Donald Trump une période de combat. C'est vraiment le signal de départ, en tout cas j'aimerais peut-être avoir votre avis là-dessus, d'une mobilisation qui va être probablement intense durant ce mandat de Donald Trump. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sylvie Laurent.
Ah oui, il est certain que la mobilisation et les mouvements sociaux dans leur ensemble vont être la principale forme de résistance, puisqu'on voit que les institutions dont on pensait qu'elles seraient un système de digue face aux éventuels dommages que pourrait causer Donald Trump sur les principes démocratiques américains sont finalement assez fragiles. Il faut donc compter, en particulier aux États-Unis, qui est un pays qui a assez peu de corps intermédiaires et dont l'identification partisane est un petit peu compliquée, il faut compter sur les mouvements sociaux. Et donc les femmes qui très souvent dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire américaine, ont été des sentinelles, ont été des premiers combats, parmi les premières à descendre dans la rue, parce que ne serait-ce que sortir du foyer était déjà un acte politique et un acte de dissidence, ont lancé ce mouvement donc pour le 21 janvier, le lendemain de l'inauguration. Mais si je peux me permettre une petite modification par rapport à ce que vous avez dit, ça n'est pas uniquement par rapport aux propos outranciers de Donald Trump. Évidemment,
le caractère
pas tout à fait. C'est lorsqu'on a su qu'il avait été élu. Le caractère phallocrate du personnage et le sexisme profond de ses propos avait, dans un premier temps, pendant la campagne, suscité bien des indignations légitimes. Mais il ne s'agirait pas de penser que la marche, en particulier dans la tradition américaine, est simplement l'expression d'un mécontentement. C'est une forme aux États-Unis de participation politique qui participe d'une certaine façon d'un processus électoral. Et cette manifestation, cette marche des femmes du 21 janvier, elle arrive non pas avec seulement l'expression d'une colère ou l'expression d'une inquiétude, elle arrive avec un programme. Et la raison pour laquelle elle arrive avec un programme, c'est qu'on se rend compte, et on le sait depuis un certain temps, puisqu'on n'a pas attendu Donald Trump, que la guerre faite aux femmes, ce qu'on appelle War on Women, une métaphore peut-être un peu forte, mais qui donne bien l'idée de ce qui se passe aux États-Unis, a commencé depuis des années. Et que Donald Trump arrive sur une vague de régression sur les droits des femmes qui a commencé depuis 4-5 ans aux États-Unis, à partir de choses très simples comme la fermeture des cliniques où était pratiqué l'avortement, le fait que l'assurance santé ne rembourse plus la contraception dans les États conservateurs, etc., etc. Et donc elles arrivent le 21 janvier avec un programme politique et des demandes spécifiques, parmi lesquelles l'adoption d'un amendement sur l'égalité des droits, l'égalité salariale, des mesures fortes contre les violences faites aux femmes et enfin des mesures pour obtenir un congé parental et le fait que les femmes puissent s'arrêter de travailler. C'est-à-dire qu'on est dans les politiques publiques. Ça n'est pas simplement l'expression d'un mécontentement, c'est une demande de reconnaissance politique de la question féminine.
Encore peut-être une question et puis ensuite je me tournerai vers vous, Daniel Tartakovsky, pour essayer de comprendre les différences entre les marches, les parades, les manifestations, parce qu'effectivement, il y a peut-être des distinctions à établir. On n'avait pas vu d'événement, Sylvie Laurent, féministe de cette ampleur ces dernières années. On attend là quand même peut-être 200 000, 300 000, peut-être même 400 000 personnes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de retour de cette question-là, ou est-ce que finalement cette lutte féministe, en l'occurrence, il faudrait dire les luttes féministes, parce qu'en réalité, il y a des mouvements féministes aux États-Unis, mais on y reviendra. Mais où est-ce que finalement cette lutte, elle était peut-être moins visible que ça dans la rue, mais peut-être dans d'autres espaces, on la voyait davantage. Peut-être, je pense par exemple à l'université, par exemple, Sylvie Laurent.
Alors, je répondrai en deux temps. Le premier, c'est qu'en effet, le mouvement féministe avait pris d'autres formes. La radicalité du mouvement des années 70 et 80 s'était finalement cantonnée à un cercle universitaire et à un monde académique où l'expression d'un féminisme fort s'est déployée. Et pour le reste, il faut bien dire que le monde démocrate, le progressisme américain a un petit peu intégré la question de la condition féminine dans une espèce de logique néolibérale, si vous voulez, un peu à la Carol Sandburg, vous savez, qui a écrit ce livre qui s'appelait Lean On il y a 2 ans, je crois, qui avait eu beaucoup de succès et qui défendait l'idée selon laquelle, pour finalement s'émanciper, la femme devait devenir elle-même une cadre supérieure, entrer dans l'entreprise, travailler 2 fois plus que les autres, devenir à son tour quelqu'un de productif et de compétitif sur le marché. Donc ça, c'est la première partie de la réponse, qui est de dire que en effet, fait, la lutte féministe était un petit peu fragmentée. Mais l'autre raison qui me semble beaucoup plus importante et intéressante pour nous, c'est que cette marche-là qui est prévue et à laquelle nous allons assister, ça n'est pas une marche féministe en tant que telle. Les femmes y jouent un rôle très important. Mais à la différence de toute l'histoire du mouvement féministe qui était passé à côté de la diversité des conditions, on a appelé ça intersectionnalité de façon un petit peu jargonnante, c'est aussi une marche des minorités. C'est une marche dans laquelle les associations musulmanes sont présentes, les mouvements des conditions des Noirs, les associations LGBTQ sont présentes, un certain nombre de mouvements associatifs gays sur la question, par exemple, des prévenus en prison. Donc en fait, les femmes sont les porte-drapeaux sur ce cas précis, d'un mouvement beaucoup plus large de contestation, et elles sont le visage gracieux d'un mouvement social et d'une population qui se sent menacée et qui souhaite exprimer une forme de dissidence.
On reviendra sur cette question de l'intersectionnalité de cette convergence des luttes. Daniel Tartatowski, pardon, aux États-Unis, il y a une multitude de termes pour parler de manifestations de rue, on parle de march, on parle de parade, on parle de processions, on parle de walk, on parle de demonstration. En France aussi, on a plusieurs types de, on a plusieurs mots, on parle de manifestations, de marches, etc. Quelle différence est-ce qu'on peut établir entre tous ces termes et qu'est-ce que ça nous dit de la nature justement de ces expériences de contestation collective?
Je crois qu'il est très important de voir comment dans chacun des pays concernés, et donc je ne crois pas pouvoir répondre de façon globale, les acteurs choisissent tel ou tel terme. C'est vrai que la forme marche est une forme qui, et le terme de marche, je parle sous votre contrôle, s'est imposé de façon extrêmement précoce aux États-Unis, et que ce qu'on a appelé en France les marches se sont inspirés peut-être du modèle chartiste au début des années, enfin, les années 1830, mais en tout cas du modèle américain dans les années 1930 et de façon beaucoup plus contemporaine. C'est vrai qu'en France, on a eu longtemps un usage dominant du terme manifestation. Mais tout aussi bien, possibilité de rencontrer parade, procession. Je crois que le terme de marche, qu'il s'agisse de l'Angleterre, des États-Unis ou de la France, renvoie bien évidemment à la fois à un modèle processionnel et à un modèle religieux et à un modèle militaire. Marchons. Manifestation est sans doute, dans le vocabulaire politique français, quelque chose de beaucoup plus construit politiquement, qui s'est imposé à la fois comme terme et comme forme au tournant du, au début du XXe siècle, dans un rapport fort, me semble-t-il, avec toute la symbolique et la culture politique. Et ce qui m'est apparu intéressant, et là nous allons retrouver les États-Unis, c'est de voir que quelque part au début des années 70, ça vaut en France, mais ça vaut dans beaucoup d'autres pays européens et non européens, la forme marche et le terme marche se sont de nouveau imposés avec force. Alors s'agissant de la France, on a vu réapparaître marche pour désigner, je crois que c'est un moment refondateur, la marche des beurs, de Marseille à Paris. Bon, il s'agit d'une marche stricto sensu, puisque l'on quitte Marseille et que l'on monte jusqu'à Paris. Cela veut dire qu'on prend des risques, que le corps prend des risques, qu'il y a une douleur de la marche, et en même temps, il y a l'affirmation d'une dignité par et dans la marche. Là, je crois qu'on est très proche de modèles religieux tels qu'ils ont pu circuler dans toute la culture anglo-saxonne.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, pardon de vous couper, peut-être le désir de montrer son appartenance à un lieu, à un territoire, à un pays? Ce désir de se réapproprier d'une certaine manière la rue qu'on foule, le territoire que l'on occupe.
Alors je vais vous dire oui, mais je pourrais le dire tout aussi bien lorsqu'on parle de manifestation. Oui. Mais pour reprendre ce qui n'est pas une question, je crois effectivement qu'on pourrait comparer les marches des Indiens dans la période récente aux États-Unis avec la marche des Minguettes, où il y avait effectivement la volonté de reprendre possession, non pas simplement de la cité, mais du pays tout entier. Ce qui est plus surprenant et plus intéressant du point de vue de la science politique en France, c'est de voir la réémergence forte du terme de marche, années 80 et puis jusqu'à aujourd'hui, pour désigner des faits qui, d'un point de vue formel, pourraient tout à fait être appelés manifestations. Quand on appelle à une marche dans Paris de la République à la Bastille, ça pourrait tout aussi bien s'appeler une manifestation. Donc pourquoi est-ce que brusquement dans le vocabulaire politique, alors que manifestation on voyait quelque chose de très codifié, cette réémergence du terme marche. Et là, je trouve, crois qu'on on croise très directement ce que vous évoquiez à propos des États-Unis. Il est clair que ceux des acteurs qui se sont réappropriés la notion de marche dans des circonstances où, encore une fois, formellement, le terme de manifestation était tout à fait possible, c'est-à-dire quelque chose de court dans un espace limité qui est l'espace urbain, affirmaient à la fois une prise de distance vis-à-vis des formes plus conventionnelles. Quand même, il pouvait s'agir d'acteurs parfaitement institutionnels, syndicats ou partis, qu'on était en général dans des circonstances qui véhiculaient une lourde charge éthique, dans des circonstances où la mort est en jeu. En même temps, il me semble que ce retour du terme de marche et de la forme marche, encore une fois dans de très nombreux pays à partir des 80, avec ce qu'elle renvoie de rapport à l'anthropologie, me paraît assez significatif de la crise du politique. Mmh. Je crois que la manifestation, dans les formes qu'elle a prises en France ou dans d'autres pays européens, c'était très fortement structuré en lien avec toute une symbolique nationale, et que la crise des États-nations, la crise de ces symboliques nationales, finalement laisse à découvert un terrain qui permet la réémergence du religieux et d'anthropologique.
On reviendra bien sûr sur cette crise et on reviendra sur le cas européen et français en particulier. Mais je voudrais qu'on reste un instant sur les États-Unis, Sylvie Laurent. Si on remonte un petit peu dans le temps, c'est toujours intéressant de voir ce que l'histoire nous dit de tout ça. Le siècle dernier déjà, les femmes marchaient pour dénoncer l'exclusion dont elles étaient victimes dans la société américaine. 1913, il y a une grande Woman Suffrage Parade. Elle s'était déroulée à Washington également. C'était d'ailleurs la veille cette fois de l'entrée en fonction d'un président Woodrow Wilson à l'époque. Et à l'époque, le cortège, il était organisé de façon extrêmement stricte. J'ai d'ailleurs trouvé ce document sur Internet, sur la fiche Wikipédia de cet événement-là. Et on voit que les choses étaient organisées, les femmes étaient placées en fonction de leur pays d'origine, mais aussi pour celles qui en avaient de leur métier, nurse, bibliothécaire, etc. Et enfin, bien sûr, on avait les femmes noires, qui, elle, était reléguée à la toute
fin
du cortège. Oui. C'est étonnant de voir, évidemment, peut-être pas si étonnant malheureusement qu'à l'époque déjà, bien qu'elles étaient toutes réunies quand même autour d'une cause commune, c'est-à-dire la défense des droits des femmes, il y avait une certaine hiérarchisation, une certaine discrimination qui continuait de vivre à travers le mode d'organisation du cortège. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui dans les manifestations aux États-Unis, dans les cortèges américains?
Le fait de reléguer les gens de couleur à la fin, certainement.
Évidemment pas. Il y a d'autres, il y a bien d'autres choses.
Je vais répondre en reprenant peut-être ce qu'on vient de dire sur l'aspect nominaliste, un petit peu sur la différence entre les différents termes, qui sont très intéressants puisqu'en effet le terme manifestation n'existe tout simplement pas dans la langue américaine. Mais il y a deux choses qui sont très importantes derrière ces différents synonymes ou en tout cas mots qui servent à définir la marche et la protestation. Si l'on parle de parade ou de défilé, la dimension militaire et patriotique est fondamentale. Or, comment considérer qu'un même mot puisse définir le défilé du 4 juillet aux États-Unis où on célèbre les valeurs nationales et en même temps la contestation, la dissidence de ceux qui protestent ce même gouvernement ou ce même État? Donc c'est déjà une contradiction intéressante. Le terme procession, c'est bien sûr une connotation religieuse extrêmement importante. Et la dimension religieuse, elle est certainement beaucoup plus forte aux États-Unis qu'elle ne l'est en Europe, où la dimension manifestation est un mouvement social qu'on sent laïque, pourquoi pas socialiste, très engagé. Et il ressort de tout cela quelque chose qui est propre aux États-Unis, qui est évidemment cette espèce de religion civique, et j'en viens à votre réponse. Depuis l'origine des marches aux États-Unis, il s'agit de manifester son appartenance citoyenne et son appartenance démocratique, en particulier bien avant le 19e siècle, pour les nouveaux immigrés qui arrivaient aux États-Unis sur une terre américaine dont ils ne connaissaient pas les codes. Les différentes marches ritualisées qui scandaient la vie civique de n'importe quel petit patelin, les différents corps professionnels, les fêtes religieuses, les fêtes nationales. On connaît aujourd'hui la Gay Pride ou la fierté portoricaine dans les rues de New York, mais depuis l'origine, il y a des marches qui servent en fait à montrer son intégration au groupe et qui servent en même temps à se montrer, à expliquer que l'on est là. Donc il s'agit d'une manifestation patriotique avant d'être une manifestation de dissidence. Et donc la raison pour laquelle dans chacune des manifestations on peut voir une hiérarchisation, une organisation, ça vient de cela. Et ça n'est pas D'accord. forcément discriminatoire. Si vous pensez par exemple à Mardi Gras, la grande cérémonie de la Nouvelle-Orléans, c'est une marche. Alors c'est très festif, on joue de la musique et j'espère qu'on aura l'occasion de parler de la musique parce qu'il n'y a pas de marche sans musique aux États-Unis. On parle de ritualisation, de religion, de libération et d'émancipation. Il faut donc la musique qui est la bande-annonce de toutes ces marches. Eh bien à la Nouvelle-Orléans, la marche de Mardi Gras est parfaitement structurée selon les différents groupes d'appartenance de la ville, les corps sociaux. En musique, chaque line bass a son rôle et donc on se répond. Et ça n'est pas une forme d'infériorisation de ceux qui sont derrière. C'est simplement une hiérarchie qui tient à cette histoire américaine dans laquelle la marche est l'expression de l'appartenance démocratique. Et donc on montre la cité. C'est une métonymie de la cité qui marche et qui défile pour, bien sûr, et c'est le sens du mot parader, se montrer. Il s'agit de faire une exhibition de sa présence civique.
On parle de la marche comme acte politique. On a parlé de la Women's March. Évidemment, ce nom, il fait, bien sûr, il résonne, il fait écho à une fameuse marche de 1963, bien sûr.
Même si nous traversons des moments difficiles, aujourd'hui et demain, je fais pourtant un rêve. C'est un rêve profondément ancré dans le rêve américain. Je rêve qu'un jour, cette nation se lèvera pour vivre pleinement les articles de sa foi. Nous tenons ces vérités pour évidentes que les hommes naissent égaux. J'ai fait le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils des esclaves et les fils des esclavagistes pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité.
En plus, John Baez, bien sûr, 1963. Alors à l'époque, cette marche en Washington, elle est organisée par un groupe de défenseurs des droits civiques, bien sûr, des syndicats, des organisations religieuses. On a 300 000 marcheurs, environ 80% d'Afro-Américains, 20% de Blancs. Je dis ce chiffre parce que je voudrais qu'on en vienne peut-être à présent à cette question, parce qu'on a vu ces derniers mois une forme de résurgence de la lutte contre les violences faites aux Afro-Américains. Il y a ce mouvement Black Lives Matter qui marque, c'est vrai, le renouveau militant pour la cause noire. Alors ce mouvement, il est né, c'est vrai, de très nombreuses violences policières qui ont été faites malheureusement sur des noirs, mais en réalité ça embrasse des questions bien plus larges. Il y a des questions d'injustice économique, il y a des questions d'inégalité sociale, d'inégalité devant le droit aussi, parce qu'on sait que les noirs sont plus durement punis par la justice que les blancs à crimes ou délits équivalents, disons-le comme ça. Il y a plusieurs choses. D'abord, que révèle selon vous l'émergence de ces nouvelles mobilisations qui plus est dans un moment particulier, parce que c'est un moment où on a à la tête des États-Unis un président noir pour la première fois de son histoire. Et puis en quoi cette nouvelle génération vous semble différente de la précédente? Et peut-être que là du coup on pourra faire aussi un jeu de comparaison avec l'Europe et la France. Est-ce que vous avez le sentiment que dans la nature de la lutte, je sais pas, les thématiques abordées, les outils qu'on utilise, les formes d'action, il y a des choses qui ont changé? Et quoi, Sylvie Laurent?
Oui, alors c'est un lieu commun. La première chose qui a changé, ce sont les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, bien sûr.
Puisque, en l'occurrence, Black Lives Matter était un hashtag lancé par une jeune femme militante qui a réussi, à partir de là, à fédérer toute une union de jeunes gens tout simplement inconsolables, en colère, désespérés devant la récurrence, non seulement de la brutalité policière, mais du déni de justice qui s'en suivait. Mais c'est très important de parler de la question noire aux États-Unis si l'on veut comprendre le sens des marches, non pas au sens du cortège patriotique, de l'exhibition des couleurs américaines, des drapeaux, pour parler d'une autre tradition que l'on connaît un peu avec Henry David Thoreau et l'idée de la désobéissance civile, de marcher seul dans la forêt pour finalement se détourner d'une société corrompue, mais qui très rapidement, avec la question de l'esclavage, s'est traduite par le fait de se révolter avec ses pieds. Et je me permets de revenir dès le XVIIe siècle au fait que pour un noir, c'est-à-dire un esclave arraché de la terre d'Afrique qui travaille sur le sol américain, la première des résistances, ce sont ses pieds. La première des résistances, c'est de s'enfuir. C'est de quitter la plantation, c'est de fuir. Et cette idée que l'exil, la migration, le fait de s'échapper est la résistance qui permet de conserver une forme de dignité et d'être une forme de libération, c'est à l'origine de tout un mouvement bien avant la marche du sel de Gandhi en 31, qui a donné au fait de marcher une dimension émancipatrice extrêmement forte. Alors les mouvements noirs ont très rapidement compris que eux que l'on condamnait à l'invisibilité, qui étaient privés du droit de vote, qui n'avaient pas tous les médiums médiatiques, artistiques, éditoriaux, leur permettant de s'exprimer, pouvaient faire une chose qu'on ne pouvait pas leur interdire, qui était de marcher dans les rues et de chanter. Autrement dit, de dire « nous sommes là ». Et pour reprendre le grand slogan de la manifestation de Memphis de 1868, qui a vu l'assassinat de Martin Luther King, ils portaient tous des pancartes qui disaient « I am a man », « je suis un homme ». Et l'expression de sa dignité et de son existence par la marche, c'est quelque chose de fondamental. Et tout le mouvement des droits civiques, qui dans sa période contemporaine a commencé avec Montgomery en 1955, c'est quelque chose de très intéressant, puisque Montgomery, c'est quoi ? Les Noirs décident qu'ils ne prendront plus le bus, parce que les bus de Montgomery leur imposent de monter payé par l'avant, redescendre par l'arrière, et que c'était humiliant. Et donc, ils arrêtent de prendre le bus pendant plus d'un an, ce qui suppose quoi ? D'aller au travail à pied, d'aller à l'église à pied. Et que ces marches, qui étaient finalement pratiques, puisqu'il n'y avait pas d'autres solutions, ont donné lieu ensuite à des manifestations, à des marches organisées, le tout dans la non-violence, et c'est un point très important aussi autour des marches, la question de la violence, et plus généralement de cette espèce de non-violence qui va avec le fait de marcher, même si c'est interdit, et même si en face les forces de l'ordre vous attendent avec des gourdins et des matraques. Et donc toute l'histoire des droits civiques, c'est le fait de dire, vous ne pouvez pas constitutionnellement et même légalement nous empêcher de marcher, et seules vos armes peuvent nous empêcher de le faire, et si c'est le cas, eh bien celui qui vous regarde aura honte pour vous, et peut-être que notre cause en sortira plus légitime.
Daniel Tartakovsky, essayons de faire un jeu de comparaison, un jeu de miroir. Il y a évidemment cette marche de Washington de 1963 qui est de fait, bien sûr, un moment historique très fort pour les États-Unis. On pourrait le comparer d'une certaine manière à la marche des beurs de 83, même si comparaison n'est pas raison. Mais vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un caractère aussi historique, et peut-être même une rupture d'une certaine manière dans l'histoire des manifestations, des protestations collectives. Si on s'en réfère justement à cette fameuse marche dite des beurs de 1983, qu'est-ce qui vous semble avoir évolué depuis quand on regarde les manifestations qu'on a connues ces dernières années ? Alors on pourrait évoquer par exemple les manifestations qu'il y a eu il y a 2 ans au moment de la tuerie de Charlie. Et tout à l'heure, Sylvie Laurent nous disait il y avait ce message « Je suis un homme ». Nous, c'est vrai qu'il y a 2 ans, beaucoup étaient avec des pancartes « Je suis Charlie ». Qu'est-ce qui, là encore, vous semble avoir évolué dans le mode de contestation, dans la façon de présenter finalement son message, sa revendication ? Daniel Tartakovsky.
Ce qui me frappe, s'agissant de la France contemporaine, c'est que, s'agissant des formes de la protestation collective, nous ne sommes pas dans une histoire linéaire. C'est-à-dire que, bien sûr, on a vu émerger des formes nouvelles. Rien n'est jamais tout à fait nouveau, mais enfin, on a vu la résurgence de formes qui avaient totalement disparu, des formes classiques de la protestation politique, prenons la marche des beurs. Mais que ce type de protestation, je vais éviter le mot manifestation, n'exclut pas la permanence de formes tout à fait convenues de la manifestation et n'exclut pas le poids qui a beaucoup surpris, même si l'histoire est là pour nous dire que nous n'aurions pas dû être surpris à ce point, de manifestations émanant d'acteurs dont on pensait qu'ils étaient peu coutumiers du fait, je pense évidemment à la manif pour tous. La manif pour tous, le coup de génie, c'est l'utilisation du terme manif. C'est même pas manifestation. Alors qu'il y a évidemment quantité de mots qui auraient pu être utilisés, qui renvoyaient à l'univers culturel des forces qui descendent dans la rue pour protester contre le projet, puis contre la loi sur le mariage pour tous. Ils emploient non seulement manifestation, mais manif, c'est-à-dire un terme qui identifiait à coup sûr ce qui se passait dans la rue, comme maintenant du mouvement ouvrier pris dans le sens large, et de tous ses héritiers. Donc c'est vraiment une appropriation d'une histoire pour en faire tout autre chose, et à partir d'un rapport à l'histoire, on pourra peut-être y revenir, tout à fait différent. De la même manière, vous parliez de Gay Pride tout à l'heure, j'avais été très intéressée de voir, je ne sais plus exactement quelle est la date, mais c'est une des premières Gay Pride où il y a un entretien de la presse avec un des organisateurs qui dit « mais nous ne sommes pas une marche, nous sommes une manifestation parce que comme les salariés, nous avons des revendications à défendre ». Donc on est dans un univers où le terme manifestation a acquis une telle force, et là on est évidemment dans deux cas totalement différents, que, encore une fois, des forces peu coutumières du fait, et dont on pourrait imaginer qu'elles vont rejeter ce terme pour en épouser d'autres, revendiquent le terme manifestation, même si après, dans le vocabulaire courant, c'est pas forcément celui qui prévaut. Si on prend le cas du mouvement contre la loi El Khomri, on constate qu'on a eu conjugaison de toute une série de formes, alors formes nouvelles, pour reprendre ce que vous évoquiez, mais formes traditionnelles. Bon, on a à la fois un mouvement qui est initié par une pétition en ligne, donc, réseaux sociaux,
comme vous toujours et encore.
Il y a un instant, toujours et encore. Oui, mais simultanément, grèves qui n'ont pas l'ampleur que l'intersyndicale imagine, mais grèves néanmoins, grèves et manifestations, c'est-à-dire la forme classique des luttes sociales telles qu'elles se sont construites à partir des années 30 en France. La manif pour tous qui vient se greffer. Et je crois qu'il faut être très attentif au fait que cette histoire n'est pas une histoire linéaire, qu'une forme ne chasse pas l'autre. Ce qui est évidemment intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment on a cette simultanéité de formes extrêmement diverses et d'acteurs diverses qui ne débouchent pas nécessairement sur un mouvement social, mais faut-il déboucher sur un mouvement social ?
Alors, justement, différentes formes, et vous disiez tout à l'heure, probablement à juste titre, qu'il ne fallait pas faire trop de jeux de comparaison, trop de jeux de miroir entre les États-Unis et la France. Mais tout de même, est-ce qu'il n'y aurait pas, en France aussi, en Europe de façon peut-être plus large, une forme de, allez, risquons-nous, de filiation, voire même peut-être même d'héritage des manifestations qu'on a vues du côté des États-Unis. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ou pas du tout ? Est-ce que vraiment les histoires sont totalement séparées ?
Ah non, elles ne sont absolument pas.
Il y a une filiation, il y a quelque chose.
Elles ne sont absolument pas séparées. Il y a des situations où la capacité de circulation transnationale des formes d'action est plus forte qu'en d'autres.
Et qu'est-ce que vous y voyez justement ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme translation, j'allais dire ?
Alors, j'y verrais deux choses différentes. Et tout à fait, je vais prendre deux moments où l'explication est totalement différente. Si on prend les années 30, où les marches de la faim, qui sont un phénomène de Grande-Bretagne, des États-Unis et de l'Autriche, se développent à très grande échelle, on va pas dire sur la planète entière, mais dans de très nombreux États, on a là une forme qui est très institutionnalisée, puisque le modèle est un modèle qui est pris en charge par l'international communiste, qui appelle des pays où le chômage est peu développé, il y a peu de chômeurs de longue durée en France, à mettre en œuvre des marches qui ne sont pas du tout dans la culture politique française, avec un échec relatif, même si elles ont marqué l'histoire grâce à deux ou trois photographies. C'est un échec relatif s'agissant de la France. Ça ne correspond pas à l'état du chômage et ça ne correspond pas à l'état des formes de la protestation collective. Donc là, on a quelque chose de très institutionnalisé, la volonté d'importer un modèle qui, par ailleurs, fonctionne avec force dans les pays anglo-saxons.
Deuxième exemple.
On prend la période très contemporaine, je crois effectivement que les phénomènes de délitement du politique que nous connaissons tous, et là aussi, je vais éviter de sombrer dans les lieux communs, laisse évidemment un espace pour de redéfinition des formes. Et cette redéfinition des formes, par-delà les frontières et par-delà la diversité des héritages, elle me paraît effectivement marquée par plusieurs éléments qui sont des éléments communs. Nous sommes entrés dans un nouveau rapport à l'histoire. L'émergence de la manifestation de type moderne a été peu ou prou contemporaine de l'affirmation de l'histoire positiviste. Donc la manifestation, c'était l'image de la marche vers un avenir meilleur.
On parle cette semaine de la marche, de la Women's March à Nuit Debout. La lutte à pied, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. On est avec Daniel Tartakovsky et Sylvie Laurent.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On parlait tout à l'heure d'intersectionnalité, de convergence des luttes. Les Américaines ne sont pas toutes sensibles de la même manière aux idées misogynes, racistes de Donald Trump. Et ce constat, il apparaît clairement, notamment dans les urnes. En effet, quand on regarde les choses, 53% des femmes blanches ont voté pour le candidat républicain, alors que ce chiffre tombe à 4% pour les femmes noires. On va retrouver une nouvelle invitée, Aisha Shaida Simons. Elle est militante pour les droits LGBT, féministe, antiraciste. Elle est professeure invitée à l'Université de Pennsylvanie en sciences sociales. Elle est également réalisatrice, notamment de ce documentaire « Know the Rape Documentary ». Récemment, dans une tribune publiée dans le New York Times, Aisha Shaida Simons s'est exprimée à propos des réserves qu'elle avait initialement vis-à-vis de cette Women's March, une marche qui, par ses revendications initiales en tout cas, s'adressait selon elle aux femmes blanches, d'abord et avant tout aux femmes blanches. Finalement, les demandes du Black Feminism ont été incorporées au slogan de la manifestation et Aisha Shaida Simons a alors décidé de soutenir cette marche. Elle va nous expliquer son point de vue. Elle est au micro de Samuel Bernard, écoutez.
Dans mon article, j'ai en fait mis un lien vers un article rédigé par Kimberly Williams Crenshaw, la juriste qui, aux États-Unis, a inventé le terme d'intersectionnalité. C'est un concept qui nous incite à tenir compte des identités multiples de chacun. Par exemple, vous n'êtes pas seulement une femme, vous êtes plus que cela. Et surtout aux États-Unis, mais je dirais que c'est le cas aussi partout dans le monde. Vos identités raciales et culturelles façonnent aussi votre genre. Et si vous n'êtes pas hétérosexuel, votre sexualité a également une influence. Bref, au départ, lorsque l'on a commencé à parler de la marche, les femmes noires n'étaient pas mentionnées spécifiquement, alors qu'elles luttent depuis bien avant les élections. La position d'ensemble n'était pas inclusive et c'est pour cette raison que j'étais inquiète. Je me suis dit, mais de quelles femmes parle-t-on ? Vous savez, même si nous partageons toutes de nombreux points communs face à différentes formes d'oppression de genre, les différences culturelles, raciales et socio-économiques qui existent entre nous font que nous ne sommes pas toutes identiques.
Certaines femmes voyant justement repris les slogans antiracistes pour la Women's March ont dit que cette marche se transformait en marche pour les femmes noires. Que répondez-vous à ces personnes ?
Je
dirais que c'est un point de vue très étriqué. J'aimerais quand même rappeler que ce sont en majorité des femmes noires qui ont voté pour Hillary Clinton, plus de 50% de son électorat. Et pourquoi aurait-elle voté pour Donald Trump de toute façon ? Donc critiquer le fait de mettre l'accent sur les femmes noires, c'est honteux. Je dirais même que c'est raciste. En tout cas, je ne pense pas que la marche ne mette l'accent que sur les femmes noires. Je pense qu'au contraire, la marche est désormais inclusive. Mais bon, je m'inquiète toujours lorsque l'on commence à parler d'inclusion et de diversité, et que l'on commence à tirer sur la corde, parce que cela polarise les esprits et les gens s'énervent.
Cette manifestation se déroulera le jour après l'investiture de Donald Trump. Aisha Shaida Simons, est-ce qu'il faut voir dans cet événement une manifestation contre le nouveau président ?
Bon, vous savez, je ne fais pas partie des organisatrices de la marche. Je soutiens la marche, c'est tout. Elles ont dit qu'il ne s'agissait pas d'une contestation, même si moi, personnellement, je conteste l'investiture de Trump. Ce que disent les organisatrices, c'est « Attention, les droits des femmes, ce sont des droits humains ». Elles ne manifestent pas contre, mais elles disent « Vous, futur président Trump, devrez aborder les problèmes auxquels les femmes sont confrontées ». Je suis totalement pour cette marche, mais je pense également que nous devons avoir des stratégies polyvalentes pour que d'autres puissent protester. Mais les organisatrices disent bien qu'il ne s'agit pas d'une contestation, mais plutôt d'une déclaration à l'intention du nouveau gouvernement. Nous sommes là, nous vous surveillons et nous vous demandons des comptes à chaque instant.
À quel point pensez-vous que les mots misogynes de Donald Trump seront suivis des faits ? Pensez-vous que le nouveau président représente un risque réel pour les droits des femmes ?
Je suis extrêmement inquiète. Moi, j'ai subi une IVG lorsque j'étais en première année de fac et je suis très inquiète parce que je pense que Trump et le vice-président Pence sont parfaitement capables de renverser la valeur de façon exponentielle. Ils pourraient nommer des juges à la Cour suprême qui remettent en cause les lois existantes. Et disons-le clairement, un grand nombre de droits à l'avortement ont fait partie d'un mouvement général en faveur des droits reproductifs des femmes de couleur. Et un grand nombre de droits reproductifs ont été perdus au fil du temps dans ce pays.
Il y a en réalité très peu de cliniques qui pratiquent l'IVG et très peu de centres médicaux qui proposent une contraception. J'ai donc peur de voir qui il va nommer. Il y a déjà un siège vacant à la Cour suprême et selon toute probabilité, d'autres sièges vont se libérer, sans compter que Trump a la majorité au Congrès. Tout cela multiplie les possibilités d'adopter des lois draconiennes qui auront un impact désastreux sur les femmes et les enfants, les gays et les personnes de couleur aux États-Unis.
Vous, Aisha Saïda Simons, qui êtes la fille de deux vétérans de la Student Nonviolent Coordinating Committee, la plus importante organisation du mouvement des civil rights, vous avez dit dans votre tribune que vous croyez au pouvoir de la marche. Pourquoi ? Pourquoi vous paraît-il important d'aller marcher dans la rue ? Ça permet de s'affirmer comme un groupe, de montrer sa force et sa capacité de mobilisation ?
Ah oui. Vous savez, mes parents, le docteur Gwendolyn Zohara Simons et Michael Simons, sont divorcés et mon père vit aujourd'hui à Budapest. Il est militant international pour les droits humains. Ma mère est islamologue à l'université de Floride. J'ai presque 48 ans et j'ai donc vu cela toute ma vie et je connais bien le contexte, y compris celui d'avant ma naissance. Mes parents et surtout ma mère ont grandi dans le sud profond et ce ne sont pas seulement les marches qui faisaient la différence. C'était les marches en association avec un combat d'ensemble, les assemblées, les boycotts, tout cela arrivait à bloquer certaines choses, surtout les boycotts d'ailleurs. Les boycotts ont un pouvoir incroyable. Je pense donc que les manifestations et les marches donnent avant tout une possibilité de comprendre que nous ne sommes pas seuls. Elles permettent de créer une communauté. Elles créent aussi une force, un élan. Et dans ce pays, les marches font réagir, ou en tout cas ont toujours fait réagir jusqu'à présent. Cela dit, je suis convaincue que les marches ne sont pas la seule solution. Vous ne pouvez pas aller à une marche et puis rentrer chez vous et point barre. Vous devez trouver des moyens de résister. Personnellement, je suis partisane de la résistance non-violente, même si je comprends que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Je suis profondément pour la non-violence, mais je sais parfaitement que nos communautés sont assiégées et font face à une terreur des suprématistes blancs aux États-Unis. Vous savez, on parle énormément de l'extrémisme musulman, du terrorisme islamiste, et je ne remets pas cela en cause, pas du tout. Mais il existe un suprématisme blanc que je qualifierais, moi, d'extrémisme terroriste chrétien. Il est donc primordial que nous descendions en nombre dans la rue pour montrer que nous ne sommes pas une minorité, que nous sommes en fait la majorité. Alors oui, nous avons perdu l'élection, mais le vote populaire est quand même allé à Hillary Clinton. Nombreux sont ceux à gauche qui étaient critiques à l'encontre d'Hillary Clinton, c'est vrai. Mais je suis convaincue qu'elle aurait été bien meilleure que Trump. La possibilité que nous avons à gauche, avec Trump, c'est l'occasion de nous réorganiser et de bâtir une stratégie. Le revers de la médaille, c'est que nous avons perdu terrain et reculé sur certains acquis.
Voilà, Aisha Saïda Simons, militante, professeure à l'université de Pennsylvanie. Sylvie Laurent, je vais vous faire réagir absolument librement. C'est vrai que c'était une question intéressante que celle de l'émergence de cette intersectionnalité, de ce dépassement d'une certaine manière des différences. Alors c'est vrai que quand on regarde les mouvements féministes aux États-Unis, ils se structurent encore beaucoup autour d'un certain nombre de choses. La couleur de peau, on l'entendait ici, l'ethnie, la religion. Mais il y a un véritable mouvement, un véritable effort pour dépasser ces divergences. Sylvie Laurent.
Il y a un effort, mais c'est compliqué. Ouais, c'est ce qu'on voit. Ouais, c'est très intéressant, ouais. Puisqu'elle commence son intervention en disant « ça me semble être un mouvement pour femmes blanches, donc je ne pensais pas que ma place y était. » C'est un très vieux débat qui traverse tout le féminisme américain. On a même créé, Alice Walker, dans les années 80, a créé le terme « womanism » pour s'opposer à « feminism », « womanism » étant plus adapté aux femmes de couleur. La chercheuse Bell Hooks a aussi essayé de démontrer qu'il fallait que les femmes blanches comprennent qu'elles participaient d'un système d'oppression et d'exploitation sur leur sort de couleur et que tant qu'elle ne le reconnaîtrait pas, le système resterait inchangé. Et alors ce qui est très drôle, c'est que donc cette femme de couleur était très dubitative sur cette marche et puis on voit dans le New York Times, si vous regardez, il y a un blog qui laisse parler toutes les femmes blanches qui depuis près d'une semaine laissent des messages pour dire que décidément non, elles ne veulent pas y aller parce que c'est vraiment trop connoté pour les femmes de couleur noires et musulmanes et qu'elles sentent qu'elles n'ont plus leur place. Et ce qui est très intéressant, c'est la réaction des organisateurs qui disent oui, il y a des tensions,
gouvernement. Oui, c'est compliqué. Mmh. Et oui, visiblement, il y a de la controverse, mais c'est ce que nous voulons, puisqu'il est temps de mettre au jour le fait que, en effet, entre une femme de la classe moyenne qui habite dans une suburbs blanche de Californie et une jeune employée d'un fast-food hispanique dans une grande ville du Nord-Est, il y a finalement très peu de choses communes. Et pourtant, elles essayent. Et à la question certainement rhétorique du journaliste qui demande est-ce que c'est anti-Trump, avec une naïveté que j'ai trouvée tout à fait intéressante.
C'est Samuel Bernard qui est au micro.
C'était rhétorique, c'était justement absolument pour faire accoucher la vérité. C'est évidemment anti-Trump, mais pas seulement pour ce qu'on craint pour la suite. Juste un petit exemple, depuis quelques jours, le ministre de la Justice est entendu au Sénat et il est très très fermement et avec beaucoup de virulence interrogé sur le fait qu'il s'est opposé en tant que sénateur.
Il est anti-avortement.
Oui, c'est évident, oui. Mais ça, c'est entendu. Oui, qu'il s'est opposé à la loi Lilly Ledbetter Act, votée par Obama sur l'égalité salariale, et que plus encore, interrogé sur les propos de Trump, considérez-vous que attraper une femme par les parties génitales sans son consentement relève du délit d'agression sexuelle? Il a répondu non. Et donc, il y a eu plusieurs intervenants qui sont venus pour dire, moi, je suis une ancienne victime de viol, survivor, comme on dit aux États-Unis, et donc je m'oppose à cela. Donc, elles ont parfaitement raison. Un dernier point, une petite distinction que nous n'avons pas encore établie. Il y a une chose qui est un petit peu dans la confusion entre la marche comme transhumance et la marche comme occupation. Et quand vous parliez de la marche sur Washington ou du mouvement Nuit Debout, il ne s'agit pas de marcher, il ne s'agit pas de se déplacer les 300 km de Gandhi, les 50 km entre Selma et Montgomery pendant les droits civiques, il s'agit d'occuper. Et donc si vous allez plus loin et que vous intégrez la marche à la question de l'occupation, on retrouve Occupy Wall Street, on retrouve l'occupation des places.
Et vous me tendez une perche, justement, voilà. Allons-y. Parce que d'une certaine manière, quand on marche très 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 lentement, à un moment, on atteint l'immobilisme.
Et d'une certaine manière, surtout lorsque le point important c'est Washington, et de tourner sur la place devant les lieux de pouvoir.
C'est ce qui s'était passé à Nuit Debout, souvenez-vous.
En fait, là, la question qui se pose à nous, dans le fond, c'est la question de qu'est-ce qu'on pense être la politique ou le politique. Il y a une idée dominante de la politique qui serait la pure palabre, le pur bavardage, et dans le fond, il y a tout un tas de dispositifs qui mettent en œuvre le monde et par lesquels on est tenu et par lesquels le pouvoir se tient. Si, de fait, ce à quoi on aspire, c'est le soulèvement, c'est l'insurrection, c'est la capacité à destituer le pouvoir qui nous gouverne, si c'est à ça qu'on aspire, ça implique de tenir ensemble la pensée, l'élaboration théorique et la pratique. Et ça implique une confrontation. Tous les mouvements sociaux, tous les mouvements révolutionnaires ont à voir avec un élément de confrontation.
Voilà, l'un des discours qu'on pouvait entendre sur cette place de la République au printemps 2016. Il faut rappeler, Daniel Tartakovsky, qu'on est dans un contexte où le monde a connu d'autres luttes de place comme ça. Il y avait effectivement Occupy Wall Street, on pense aussi bien sûr aux indignés de la Puerta del Sol du côté de l'Espagne. Pourquoi cette mobilisation se fait justement, et je vais reprendre la formule, dans un mouvement immobile? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de s'arrêter pour contester?
Alors, dans un film qui est consacré à la Puerta del Sol, il y a un des occupants qui dit « Parler d'avenir, c'est parler de la mort ». Et ça m'a beaucoup frappé parce que je disais tout à l'heure, la manifestation, elle s'est constituée comme une image de la marche en avant vers un avenir meilleur, vers la transformation, vers la fin de l'histoire, d'une certaine manière. Et il me semble que ceux qui occupent les places, je ne sais pas si c'est le cas de celui que l'on vient d'entendre, considère que c'est ici et maintenant. Donc c'est tout un rapport au futur.
Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est maintenant ou c'est la mort ? C'est-à-dire qu'en gros, il faut comprendre que la manifestation, le mouvement, c'est la vie, non. Et s'arrêter, c'est la mort ?
Non, pas du tout. Les choses peuvent bouger dans ce que nous faisons, je parle, ici et maintenant, dans cet espace que nous occupons et dans le temps de l'occupation. Ce qui pose évidemment, d'un point de vue politique, je l'interprète tout à fait au propos qu'on vient d'entendre, ce qui pose la question de l'après. On a bien vu en Espagne que l'articulation de ce temps où l'on élabore, où l'on tente d'élaborer, où l'on tente d'être ensemble. Et les institutions politiques est un passage complexe dans tous les pays où ça a été tenté. Mais j'étais en discutant avec des jeunes architectes qui participaient à Nuit Debout, j'avais été très frappée par ce qu'ils me disaient, parce que nous avions ce débat sur avenir ou pas avenir, est-ce que c'est ici et maintenant, ou est-ce que dans un mouvement social on prépare un devenir. Et ils me disaient, mais tu sais, nous, notre devenir, ça va rarement plus loin que 2 ou 3 mois, c'est la fin de notre CDD. Et je crois effectivement, enfin j'ai été... Je suis fonctionnaire, donc je ne m'étais jamais posé le rapport au temps et à mon temps existentiel dans ces rapports-là. Et brusquement, j'ai pris conscience de cette espèce de fugacité du temps dans lequel une nouvelle génération est contrainte à agir.
Et quel bilan vous en faites aujourd'hui de cette nuit debout? Parce que vous parliez des indignés. Alors, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais quand même, ça s'est transformé en partie, Podemos, qui a eu des victoires électorales. Alors, effectivement, on peut dire aujourd'hui que leur action politique, ils ne sont pas parvenus, par exemple, à s'imposer dans une éventuelle coalition, et que le gouvernement espagnol, qui a mis des mois à émerger, n'a pas pris sous son aile Podemos. Mais quand même, il y a des choses qui ont changé au niveau local. Ils ont pu quand même avoir une action politique. Nuit debout...
Mais je souscris tout à fait à votre propos, et c'est pourquoi je pense qu'on peut difficilement parler des marches et des mouvements sociaux et des occupations en termes généraux, et qu'il faut voir comment dans chacun des États, le rapport aux politiques dans ces formes instituées est susceptible de se transformer ou non. De ce point de vue, la situation espagnole et la situation française étaient éminemment différentes.
Sylvie Laurent, Occupy Wall Street, c'est vrai qu'on a vu tout doucement s'effriter le mouvement. Il y avait ce désir de ne pas avoir réellement de revendications. En tout cas, il y avait des dénonciations, mais il n'y avait pas de projet plutôt politique du côté d'Occupy Wall Street. Et on voit que finalement, ça s'est essoufflé. Alors oui, certes, pendant la campagne, on a un Bernie Sanders qui, d'une certaine manière, a porté un petit peu ces voix-là, mais très rapidement, quand il eut disparu, il n'y avait plus rien d'Occupy Wall Street.
Je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y a pas de projet politique, c'est ça qui me perturbe.
Ah, pour Occupy Wall Street, c'était une revendication que de ne pas avoir de projet politique.
Mais c'est un projet politique. Oh, pardonnez-moi, c'est la situation mieux que moi.
Je
me permets en effet d'être en complet désaccord avec vous.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
La réforme du système bancaire et de la folie absolue de la financiarisation de la vie politique aux États-Unis, c'est un programme politique. S'il n'était que cela, une loi pour réguler le financement de la vie politique américaine, je vous assure que la situation serait très différente. Par ailleurs, Bernie Sanders est loin d'être anecdotique. 14 millions de voix, c'est sans doute quelqu'un qui va donner à réfléchir au Parti démocrate.
J'ai pas dit qu'il était anecdotique, mais
qu'il a disparu, il n'a pas disparu.
Non, de fait,
un peu compliqué, il va manifester dans 48 heures.
Bien sûr.
Mais les mouvements sociaux ne sont pas faits pour prendre le pouvoir.
Celui qui va prendre la Maison Blanche dans quelques jours.
Et les mouvements sociaux ne sont pas faits pour prendre le pouvoir. Les mouvements sociaux sont là lorsqu'ils ont la chance d'avoir des partis de gouvernement qui ouvrent l'oreille pour proposer autre chose et laisser à la population la possibilité d'être vue, d'être entendue et pas forcément de se traduire par quelque chose de politique. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a dans la marche quelque chose qui est très très spirituel. Le rabbin Heschel, qui soutenait Martin Luther King dans ses combats, disait « Marcher, c'est prier avec ses pieds ». Et il y a quelque chose de l'incantation. Mais l'incantation, ça n'est pas forcément vain. L'incantation, c'est aussi une façon d'exprimer un souhait d'alternative. Alors on peut trouver ça très très idéaliste, mais dans la communauté, le rassemblement des gens qui sont en désaccord, il y a aussi l'expression d'une forme démocratique. Et aux États-Unis, on ne peut pas comprendre l'expression démocratique sans cet acte fondamental du dissent, c'est-à-dire le fait de se lever et de dire « je suis en désaccord, je me permets d'être en désaccord, I beg to differ », disent les Américains. Si vous me permettez, je suis en désaccord. Et c'est profondément ancré dans la citoyenneté américaine et l'idée que se fait l'Américain de lui-même. For I killed my share of engines in a thousand different fights. I was there at the little big horn. I heard many men lying, I saw many more die. But I ain't a merchant anymore.
Phil Hawks, justement, lui décide d'arrêter de marcher, hein, Sylvie Laurent, on l'entend.
Alors oui, c'est bien que vous ayez accepté de passer cette chanson. C'est un ancien soldat qui, plutôt que de dire qu'il va protester en marchant, dit « je vais protester en arrêtant de marcher parce que j'ai marché sur trop de champs de bataille et donc aujourd'hui je m'arrête ».
Merci beaucoup à vous, Sylvie Laurent, Daniel Tartakovsky. Je rappellerai vos ouvrages, Martin Luther King, une biographie intellectuelle et politique, La couleur du marché, racisme et néolibéralisme aux États-Unis. Ça, c'était au Seuil l'année dernière. Daniel Tartakovsky, Les droites et la rue, histoire d'une ambivalence de 80 à nos jours, mais aussi histoire des mouvements sociaux en France de 1818 à nos jours. On mettra toutes les références de ces ouvrages sur la page de Culture Monde. Merci infiniment d'avoir été nos invités ce matin pour ouvrir cette semaine consacrée à la marche. On va retrouver tout de suite un autre marcheur, Brice Couturier, pour Le Monde des Idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors vous allez nous parler ce matin des relations entre la Chine et les États-Unis. C'est vrai que les relations sino-américaines semblent assez mal parties avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et pourtant, d'après ce que vous avez lu, Pékin avait d'abord vu d'un bon œil le successeur de Barack Obama. Brice.
Oui, d'après Jeffrey Wasserstrom, un historien de la Chine moderne qui a mis en ligne un article sur le site Project Syndicate, les Chinois avaient au départ une assez bonne opinion de Donald Trump. Le pivot vers l'Asie d'Obama, défi manifeste lancé à la Chine, les avait passablement irrités. Cette tentative de brider l'expansionnisme chinois en mer de Chine méridionale n'a d'ailleurs guère réussi, comme on l'a entendu dans Culture Monde. Trump, lui, promettait de s'occuper en priorité des affaires de l'Amérique et il invitait les alliés asiatiques à compter sur leurs propres forces, comme disait Mao Tse-tung. Vu de Pékin, cela paraissait de bon augure. La personnalité atypique de Trump plaisait aussi bien davantage aux Chinois que celle de l'intellectuel sophistiqué Barack Obama. Il leur rappelait l'ancien ambassadeur des États-Unis en Chine, Gary Locke, connu pour ses manières directes. Mais en quelques tweets, et avant même d'avoir inauguré sa présidence, Trump a dilapidé ce capital de sympathie. Et mon historien américain de proposer un rapprochement historique avec le président Wilson, lui aussi adulé par les Chinois, y compris par le jeune Mao Tse-tung, avant d'être finalement détesté par eux. Oui, Woodrow Wilson, réélu président en 1916, accepte, après beaucoup de réticences, de se joindre aux démocraties européennes en guerre. Mais lors de son fameux discours au Congrès de janvier 1918, il fixe des objectifs très clairs à cette entrée en guerre. Comme cela est formidablement décrit dans un livre récent, Le Déluge, d'Adam Tooze, ce sont les États-Unis qui fixeront l'ordre de l'après-guerre. Or, les 14 points incluent le droit des peuples à l'autodétermination nationale. Et à ce moment, les États-Unis sont considérés dans le monde entier comme les champions de la cause des peuples contre les empires. Les jeunes nationalistes chinois en particulier s'enthousiasment pour ce beau programme. Leur pays est affaibli, en proie aux seigneurs de la guerre, victime de multiples empiètements étrangers. Ils s'attendent à ce que le président américain les protège, en particulier contre l'impérialisme japonais. Mais cette fois, je cite Adam Tooze, la délégation chinoise fut la seule à ne pas se rendre à la cérémonie du signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Depuis la première semaine de mai, la conférence de Versailles avait réduit au tumulte le plus grand pays du monde par la taille. Le transfert au Japon de la concession allemande de la péninsule du Shandong lors de la conférence devait rester comme un moment fondamental dans l'épopée du nationalisme moderne chinois. Tout à coup, la Chine devenait doublement victime de l'agression japonaise et de l'hypocrisie de l'Occident. Adam Tooze précise aussi que le successeur de Wilson, le président Warren Harding, isolationniste déclaré, n'a en rien corrigé cette mauvaise image de l'Amérique aux yeux des Chinois. En effet, lors de la conférence de Washington, les États-Unis ne firent pas grand-chose pour réparer leur bévue. Certes, la Grande-Bretagne parvint à convaincre le Japon d'évacuer toutes ses troupes de cette péninsule du Shandong, que tout le monde se disputait, mais prenant prétexte de l'état de chaos où était plongé l'Empire du Milieu et du manque de représentativité de sa délégation à la conférence, certaines revendications chinoises, une essentielle, furent ignorées, en particulier, et les Chinois y tenaient beaucoup en tant que symbole de leur souveraineté, justement, le contrôle des recettes fiscales et le droit de protéger leurs industries contre le dumping étranger. Pire, le représentant américain à Pékin, Jacob Shurman, humilia gravement le gouvernement chinois en envisageant publiquement, je cite, de le balayer entièrement et de le remplacer par une agence internationale.
Mais la Chine d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle de 1918 ou à celle de 1922, et pourtant à nouveau, elle se dit dissue par les États-Unis. Pourquoi cette fois-ci ?
Ah oui, la Chine a changé de manière extraordinaire en un siècle. Elle est unifiée sous un leadership fort, elle est devenue la deuxième puissance économique de la planète, elle ne mendie plus des droits, mais affirme sa puissance. Ce n'est donc pas sa protection qu'elle attend des Américains, mais leur acquiescement à sa politique régionale de puissance. Elle ne veut pas être contrée par les États-Unis en mer de Chine du Sud. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dit Wasserstrom, Pékin n'avait pas trop mal pris les attaques de Trump contre la politique commerciale chinoise. On était prêt à négocier pour éviter une guerre des tarifs et des devises. On avait vu dans la fixation de Trump sur ses dossiers commerciaux la preuve que ce businessman ne s'intéressait pas tellement aux relations internationales et que son gouvernement serait isolationniste. Mais à présent, Pékin considère Trump avec irritation. Les déclarations du futur secrétaire d'État Rex Tillerson condamnant la construction d'îles artificielles à des fins militaires par Pékin, la possibilité de voir Washington rompre avec la politique ne reconnaissant qu'une seule Chine ont changé la donne. À présent, les relations entre les deux principales puissances de notre époque sont tendues, comme à l'époque de Woodrow Wilson et de Warren Harding.
Et bien voilà, l'histoire qui se répète. Merci beaucoup, ou pas. Merci beaucoup, Brice Couturier. On vous retrouve évidemment demain pour poursuivre ces pérégrinations, le monde des idées qu'on peut retrouver bien sûr sur la page de France Culture, www.franceculture.fr. Mais pour l'heure, sur France Culture, on retrouve dans quelques instants Olivia Gesbert pour La Grande Table.